Chapitre 13. Rien n'est plus émouvant à considérer que les changements qui se sont produits dans un milieu d'où nous avons été absents pendant un espace de temps. Heureux ou douloureux, ils se sont succédés sans que les témoins en aient eu une vue d'ensemble, d'où cette impression de fatalité que nous éprouvons en reparaissant. C'est ainsi que, dans cette histoire, 8 mois s'étaient écoulés que Colette, sans qu'elle semblât aujourd'hui s'apercevoir de ce qui lui était arrivé, avait perdu son père et vivait avec une fillette de 10 ans dans un appartement de la rue de la Convention. Il nous faut dire tout de suite que ce dernier fait n'était pas comme il semble la conséquence du premier, mais qu'il l'avait précédé. En effet, c'était au mois de janvier 1923, alors que le docteur Salmon était encore en vie, que Colette avait quitté la rue d'Assas. Voici comment c'était arrivé. Dès que Denise Bénac était venue habiter chez le docteur Salmon, Colette, par discrétion, n'avait plus paru qu'au repas. Pour remplir les longues journées, elle était retournée à l'école des Beaux-Arts, mais sans la moindre passion. En vérité, elle passait son temps à penser à Jacques, à supputer quand il serait libre. Assez régulièrement, elle se rendait rue Oudinot, non parce qu'on l'y recevait toujours avec plaisir, mais avec l'espoir d'y trouver des nouvelles de Jacques. Mais invariablement, on lui répondait qu'il n'y avait rien, que c'était naturel, car il ne pouvait rien y avoir. « Enfin !» s'exclamait Colette. « Jacques ne vous écrit même pas à vous, ses parents ?»« Il n'a pas à nous écrire. » Ce fut à partir du jour où on lui fit cette réponse qu'elle soupçonna M. et Mme Lézardouin d'être en correspondance avec Jacques, mais de le cacher. Elle n'en retourna pas moins les voir, car elle avait la conviction que, si vraiment un événement important se produisait, on la mettrait malgré tout au courant. Parfois, Colette se surprenait à considérer avec étonnement non pas ses occupations quotidiennes, mais la période qui s'était écoulée entre elle et le départ de Jacques. Comment se faisait-il que la transition s'était opérée si facilement, sans que Colette s'en fût aperçue, et qu'aujourd'hui, alors qu'elle souffrait autant que le premier jour, elle se levait à 8 heures, prenait son petit déjeuner, se rendait à l'école, rentrait, repartait. Il y avait 2 mois que cette vie durait, lorsqu'un soir que Colette se trouvait seule avec Denise, celle-ci lui demanda de la suivre dans sa chambre. Jusque tout dernièrement, elle n'avait pas témoigné à la fille du docteur Salmon beaucoup de sympathie. Elle l'avait surtout observée, et cela n'avait été qu'il y avait une semaine qu'elle avait acquis la certitude que Colette ne lui vouait pas une jalousie secrète. Elle était de ces femmes qu'une pareille découverte transforme. Aussi, à partir de ce jour, de méfiante et réservée qu'elle était, devint-elle pleine de prévenance et d'amabilité. Ce fut donc sans éprouver de surprise que Colette accompagna Denise. Celle-ci ferma soigneusement la porte, puis invita Colette à s'asseoir à côté d'elle sur son lit. Depuis longtemps, elle aurait dû dire depuis quelques jours, « Je désirais avoir avec vous une grande conversation. Nous ne nous connaissons pas. Ce n'est pas naturel puisque nous vivons l'une près de l'autre. Tout ce que je sais de vous, c'est votre père qui me l'a appris. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il ne vous comprend pas. Mais ne croyez pas qu'il ne vous aime pas pour cela. Il est avec moi exactement comme il est avec vous. » À la suite de nombreux conciliabules de ce genre, Denise fit un jour des confidences plus intimes à Colette. Elle n'avait pas toujours été, elle aussi, la personne raisonnable qu'elle paraissait aujourd'hui. « Pourquoi dites-vous moi aussi ?» avait pensé demander Colette, mais elle avait gardé le silence. Elle avait été, elle aussi, amoureuse d'un jeune homme qui l'avait fait souffrir, non pas consciemment, mais parce que tels étaient leurs caractères qu'ils n'avaient pu s'entendre. Denise n'avait pas eu la chance de Colette. Dès le début de sa liaison avec cet homme, elle avait eu une fille. Celle-ci avait aujourd'hui 10 ans. Colette apprit alors une chose qui, tout en lui causant de la peine, la surprit agréablement. C'était que cette fillette, dont toute la vie s'était écoulée en pension chez des fermiers, si elle, Colette, n'était pas arrivée au début de l'automne, eût habité rue d'Assas. Le docteur Salmon ne l'avait plus voulu alors. Denise, qui, tout en ayant bon cœur, manquait de finesse, avait donné comme raison de ce revirement à Colette, pour que celle-ci ne se doutât pas de la vraie raison, que c'était un prétexte, qu'au fond, il n'avait jamais voulu de cet enfant, voulant avoir Denise entièrement à lui. Colette n'avait pas été dupe, et de ce jour, elle garda une profonde reconnaissance à son père. Il n'était donc pas si indifférent qu'elle croyait. Sa rudesse n'était qu'apparente. Au fond de lui-même, il éprouvait encore suffisamment d'amour-propre vis-à-vis de sa fille pour ne pas se montrer devant elle dans une posture ridicule. Denise avait eu une arrière-pensée en faisant cette confidence. Elle voulait amener Colette, dont elle avait remarqué le désœuvrement, à demander elle-même à son père qu'il consentît à prendre chez lui la fillette. « Vous lui direz, avait-elle précisé, que cela vous ferait un grand plaisir, que cela vous occuperait et qu'il ne s'apercevrait de rien. » Colette n'avait pas osé refuser, mais pendant plusieurs jours, elle évita tout aparté avec Denise. Il lui était en effet profondément pénible de demander à son père de faire une chose qu'elle était convaincue qu'il n'avait pas faite à cause d'elle. Mais Denise revint avec d'autant plus d'insistance à la charge qu'elle s'était peu à peu persuadée qu'une telle solution ne pouvait qu'être favorable à tout le monde, à Colette parce que cela lui créerait une occupation, au docteur Salmon parce qu'il ferait une économie et qu'il ne pourrait lui être désagréable de voir l'attention de sa fille détournée de cet homme qui lui avait tourné la tête, à la fillette parce qu'enfin on pourrait former son éducation et à elle-même naturellement. Elle fit si bien que Colette ne put plus se dérober. Un soir, Denise se retira plus tôt que d'habitude pour faciliter cette intervention. « Tu sais, père, dit Colette, il y a longtemps que je veux te parler. Je te préviens tout de suite qu'il ne s'agit pas de moi. » Depuis 3 mois qu'elle habitait rue d'Assas, elle n'avait pas échangé d'autres paroles avec son père que celles qu'une vie commune rendait nécessaires. Elle avait agi ainsi parce qu'elle n'était chez son père que momentanément, par timidité, par désir de se faire pardonner, par crainte de laisser paraître malgré elle un sentiment de réprobation pour la conduite de son père, ce qui, dans sa situation, eût été d'une inconscience sans pareille. Mais son père n'avait pas deviné ses scrupules. Quelque indifférent qu'il parût être du sort de sa fille et de l'opinion qu'elle se faisait de lui, l'homme nouveau avait attendu ce à quoi l'ancien n'eût même pas songé. Il avait attendu que sa fille lui donnât spontanément ce qu'il exigeait de Denise, à savoir une sorte d'obéissance respectueuse. Il était pénétré de lui-même au point de considérer qu'il n'avait à faire aucune distinction entre les deux femmes. Aussi, lorsque Colette lui annonça, après bien des préliminaires, qu'elle serait heureuse d'avoir une occupation autre que celle de suivre des cours de peinture, celle d'élever l'enfant de Denise par exemple, le docteur Salmon en éprouva une profonde déception. C'était donc tout ce que sa fille trouvait à lui dire au bout de 3 mois. Il ne se fâcha pourtant pas. Mais il répondit sèchement que c'était impossible, et pour que sa fille ne soupçonnât pas qu'il n'avait pas voulu de cet enfant à cause d'elle, il ajouta le fruit des amours de la femme qu'il aimait avec un autre. Quelques jours plus tard, cependant, il se radoucit. « Je comprends très bien que tu t'ennuies chez moi. Tu es de ces femmes, dit-il avec un peu de mépris, qui ne trouvent de compensation à un amour malheureux que dans les sentiments maternels. Évidemment, cela devait finir ainsi. Eh bien, si tu veux, cherche un appartement. Cela vaudra d'ailleurs beaucoup mieux pour nous tous. » Cela nous faisait de la peine de te voir errer. Tu auras un but. Évidemment, j'aurais mieux aimé qu'il fût autre. Je ne sais pas si tu le comprends, mais je trouve que c'est une ironie du sort que toi, ma fille, tu sois amenée à t'occuper de l'enfant d'une femme que je n'aurais jamais aimée si tu étais restée près de moi. Ce fut 2 mois après que Colette s'était installée avec l'enfant de Denise rue de la Convention que le docteur Salmon dut s'aliter. Quelques jours plus tard, alors que tout le monde croyait qu'il n'avait pris qu'un refroidissement, il mourait. Colette avait alors été pendant quelques jours en contact avec sa famille, des bourgeois de province, pour qui les questions d'intérêt avaient une importance incroyable. Bien que Denise fût tout de suite retournée dans sa famille, ils avaient très rapidement trouvé des traces de son existence et, soi-disant, pour que la femme légitime du défunt demeurât dans l'ignorance de son infortune, ils en avaient profité pour ne pas la prévenir. Allez voir, on n'eût jamais pensé qu'aucun de ses parents ne se souvenait du docteur Salmon, autrement que comme un lycéen ou un jeune homme. Il semblait qu'encore il y avait quelques mois, ils avaient été mêlés à sa vie et qu'ils en avaient souffert. L'inhumation eut lieu à Druchy, près de Nancy, par une matinée resplendissante d'avril. Pour aller de la propriété au petit cimetière, il fallait parcourir près de 2 kilomètres. Colette, perdue au milieu des 50 personnes qui suivirent le corbillard de campagne, ne pensait à rien. Elle ne paraissait pas même se rendre compte que le corps de son père était couché sur cette voiture plate surmontée d'un toit. Le cheval, dans les harnais de tous les jours, secouait la tête par moments et il n'avait aucune majesté. Le soleil brillait et autour de Colette, il n'y avait que des inconnus qui pourtant tous se connaissaient entre eux et détournaient la tête. Personne n'adressait la parole à cette fille dont on ignorait qu'elle avait vécu 4 ans avec un criminel. Personne ne connaissait son histoire et pourtant personne ne la regardait. C'était ce fait, plus encore que la mort de son père, qui plongeait Colette dans cette espèce d'hébétude. Inconsciemment, elle se demandait ce que l'attitude de ces gens aurait été s'ils avaient su. Ce ne fut que le soir, dans le train du retour, qu'elle put penser à son père. Elle se mit alors à pleurer. Parmi tous ces indifférents qui l'avaient accompagné, la seule personne qui eût pu penser à lui, c'est-à-dire sa fille, ne l'avait même pas fait. Dans les jours qui suivirent, Colette régla différentes questions d'intérêt, revit plusieurs fois Denise. Puis elle songea à aller annoncer la triste nouvelle à M. Lézardouin. Mais de même qu'elle n'avait pas dit à ce dernier qu'elle avait loué un appartement où elle habitait avec la fille d'une amie de son père, cela dans la crainte que M. Lézardouin ne pensât qu'elle avait décidément le goût des situations baroques, elle n'osa pas non plus dire tout de suite que son père était mort. Cette fois, elle ne savait pas pourquoi, elle sentait seulement confusément que cela pouvait lui nuire. Ce ne fut que plus tard, lorsque finalement elle se fut décidée à le dire, qu'elle comprit ce qui l'avait fait hésiter. C'était une crainte aussi, mais toute différente, la crainte que M. et Mme Lézardouin, sous prétexte qu'elle ne pouvait vivre seule, ne l'envoyassent en province dans une œuvre quelconque. Elle s'étonna que le pressentiment d'une pareille initiative eût pu l'arrêter. Il lui apparut alors que ses rapports avec cette famille étaient tels que, quoi qu'elle fît ou que quoi qu'il lui arrivât, tout était susceptible d'une mauvaise interprétation ou raison de se libérer d'elle. Une demi-heure s'était donc écoulée sans qu'elle eût osé faire la plus petite allusion à son père. Le nom de Jacques avait été prononcé 3 ou 4 fois, mais incidemment, lorsque M. Lézardouin, trouvant enfin un sujet de conversation, parla d'une de ses vieilles tantes qui avait une maladie étrange, l'ayant prise au talon, qu'on appelait la gangrène des vieillards. Colette, ayant quelques années de plus que Jacques, il s'était imaginé, sans doute par manque de réflexion, que M. Salmon devait être déjà d'un certain âge, et par association d'idées, il avait demandé brusquement à Colette, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'alors, comment allait son père. À ce moment, elle s'était troublée. Elle eût pu ne rien dire, mais mentir, alors qu'elle venait de conduire son père au cimetière, lui fut impossible. « Justement, je venais vous annoncer, dit-elle, la mort de mon pauvre père. » M. Lézardouin sursauta. « Ce n'est pas possible. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite, Colette ?»«
J'allais vous le dire. Je ne pensais pas que vous pourriez y attacher de l'importance. »
« Comment avez-vous pu croire que cela pouvait ne pas nous toucher ?» Il se leva, alla annoncer la nouvelle à sa femme, revint avec elle. Comme son mari, elle paraissait très émue.
« Et qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda M. Lézardouin quelques instants après.
« J'ai déjà loué un petit appartement rue de la Convention. Je vais habiter là en attendant... » Elle n'osa pas terminer sa phrase, dire en attendant Jacques. M. Lézardouin regarda sa femme, puis Colette. Soudain, il porta une main à son front. «
Est-ce que nous n'avons pas reçu une lettre de Jacques, justement, demanda-t-il à Madame Lézardoin. Tu veux parler du mot de la semaine dernière ?
Oui, c'est bien en octobre ou en novembre qu'il doit être jugé.
En novembre, certainement.
Excusez-moi, Colette, cela me fait tellement de mal de parler de mon fils.
Enfin, il faut que vous sachiez qu'il va être jugé, surtout dans ce moment comme celui-là où vous venez d'être frappé si cruellement. Cette conversation avait eu lieu en avril, à la fin d'un après-midi de juin, alors que Colette rentrait avec la fillette que Denise lui avait demandé de garder encore quelque temps, la concierge lui remit un pneumatique.
« Venez demain matin, écrivait M. Lézardoin. Jacques est libre, il veut vous voir. »